Juste un texte que nous allons lire ici, nous sommes dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible déclare ce qui suit. Jésus répondit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi ou à celle qui est à côté de toi que je suis prêt. Dis-lui, je suis prêt ou je suis prête. Je suis prêt à écouter le Seigneur me parler aujourd'hui. Mon cœur est prêt pour écouter le Seigneur. Répète ça à côté de lui, tout en souriant, que je suis prêt, je suis prête. Que le Seigneur soit glorifié, tout en restant debout, le pasteur pourra prier et il pourra passer à nous donner ce que le Seigneur a placé dans son cœur.
Éternel notre Dieu, nous venons de te louer. Nous venons de t'adorer et nous venons de te soumettre nos besoins. Nous sommes prêts maintenant, Seigneur, à t'écouter. Parle-nous, donne-nous ce que tu veux que nous soyons dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, amen. Pouvons-nous mettre? Ce matin, notre message sera tiré du livre de l'Évangile selon Jean, le chapitre 20. Nous allons lire le 19e verset jusqu'au 23e. On pouvait peut-être lire du 10e verset, mais nous commençons au 19e. Après ça, on va parler du contenu du 10e verset. Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19, la Bible nous dit ce qui suit. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, cette année, nous sommes en train de parler de l'engagement du disciple dans la mission. Nous avons commencé le mois de janvier avec le thème « Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils ?» Et maintenant, nous continuons avec ce thème de l'engagement du disciple dans la mission. Et aujourd'hui, nous « Je vous envoie ». Je vous envoie étiré de cette parole qui vient de la bouche de Jésus quand il rencontre ses disciples. Il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le contexte de cette portion de l'Écriture que nous venons de lire, c'est-à-dire Jean chapitre 20, le verset 19 à 23. Cette portion de l'Écriture se trouve dans la partie de la passion de Jésus. Jésus vient de mourir, disciples sont dans un profond embarras. Ils ne savent pas sur quel saint se vouer. Et maintenant, Jésus apparaît. Mais avant son apparition, la Bible dit, quand j'ai dit qu'on pouvait commencer même au premier verset ou au dixième verset, la Bible dit que le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Et avec elle, il y avait Pierre. La Bible dit, Pierre était suivi par un autre disciple. La parole de Dieu dit, Pierre est le disciple que Jésus aimait. Bon, on ne sait pas si parmi les douze, il y avait ceux qui l'aimaient le plus et les autres ne les aimaient pas comme il aimait celui-là. Mais la Bible dit, Pierre est le disciple que Jésus aimait. Ils sont arrivés au sépulcre. Et alors, quand ils sont arrivés au sépulcre, ils ont constaté que réellement, Jésus n'était plus là. La Bible dit que les deux disciples, Pierre et le disciple que Jésus aimait, ils sont rentrés. Mais Marie, elle est restée à la tombe après le départ des disciples. Et c'est après qu'elle a vu les anges. Deux anges, la Bible dit qu'il y avait un ange du côté où il y avait la tête de Jésus et un autre du côté où il y avait les pieds de Jésus. Pendant qu'elle s'étonnait, les anges l'ont demandé, « Pourquoi pleures-tu ?» Et elle a dit, « J'ai compassion à mon Seigneur. On l'a amené ici, mais maintenant, il n'est pas là. » La Bible dit que Jésus était aussi là. Et Marie a vu Jésus. En voyant Jésus, elle a cru que c'est un jardinier. Et elle a demandé à ses jardiniers, « Est-ce que vous n'avez pas vu mon Seigneur ici ?» Cet homme-là, qu'il a confondu à un jardinier qui était Jésus, a aussi demandé à Marie de Magdala, « Pourquoi tu pleures ?» Elle a donné la même réponse. Et à un moment donné, cet homme-là a dit, « Marie !» Il a prononcé le nom de Marie. Et la Bible dit, à ce même moment, Marie sut que c'était Jésus. Jésus l'a dit, il ne faut pas me toucher. Va, annonce cette belle de ma rédemption. Quand j'étais en train de lire ce verset, je me suis dit, nous pouvons tous être à la recherche de Jésus. Mais il y a parmi nous ceux qui croient et d'autres ont la foi. En plus de la croyance, ils ont la foi. La Bible dit que, au verset 8 de ce chapitre, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Il a cru et maintenant ils sont partis. Marie, elle est restée là. Elle a demeuré dans la présence de Dieu, dans la présence de Jésus-Christ. Le fait que Marie ait demeuré dans la présence de Jésus-Christ, elle a eu le privilège, son nom a été prononcé par Jésus. Si tu demeures dans la présence de Jésus-Christ, Jésus va prononcer ton nom. Il va prononcer ton nom pour le bien et pour une mission bien déterminée. Tu auras une faveur. Dieu va te favoriser parce que tu as demeuré dans sa présence. Elle est restée Les disciples l'ont devancé. Parce que ses disciples ont fui, ils sont partis. Ils n'ont pas reçu le privilège d'être les annonciateurs de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas demeuré. Marie a reçu ce privilège, cette faveur d'aller prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Ceux qui sont partis avant, quand ils sont arrivés, j'imagine que Dieu a fermé leur bouche. Jésus a fermé leur bouche de façon qu'ils ne soient pas le premier à proclamer parce qu'ils n'ont pas demeuré. Mais la mission était déjà donnée à Marie. Va, c'est au verset 18. Va annoncer aux disciples. Et elle est partie annoncer aux disciples. Elle a rencontré Pierre et le disciple que Jésus aimait. Ce qui veut dire quoi? Ça ne sert à rien de courir sans Jésus. Tu peux chercher à courir, tu peux chercher à fuir, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la faveur de Jésus. Partout où tu vas fuir. Ici, il faut chercher à mouvoir de la dimension de la croyance. Ces disciples qui ont cru, ils ont cru que Jésus est ressuscité. Il faut sortir de cette dimension de la croyance et vous allez vers la dimension de la foi qui va vous amener à rester en toute confiance en présence de Jésus pour une mission spéciale. Quand vous demeurez dans la présence de Jésus, c'est une mission spéciale. Est-ce que vous savez que tout le monde croit que Dieu existe? Savez-vous que même le diable aussi croit que Dieu existe? Toi aussi, tu crois que Dieu existe. Qu'est-ce qui te différencie du diable qui croit que Dieu aussi existe? Le diable croit que Dieu existe. Les gens de ce monde croient que Dieu existe, mais ils ne placent pas leur confiance en ce Dieu-là. C'est ce qu'on appelle maintenant la foi. Quand toi, tu as cru que Dieu existe, tu as cru que Jésus est ressuscité, tu as cru qu'il a donné la vie, est-ce que maintenant tu as la confiance en lui? Est-ce que tu sais qu'il est capable de te poursuivre partout où tu seras et que tout ce que tu peux faire, c'est grâce à lui? Pour avoir ça, cherchez à demeurer auprès de lui. Cherchez à demeurer auprès de lui. La foi, vous marchez avec lui. Nous pouvons croire que Dieu existe, mais nous plaçons notre confiance dans beaucoup d'autres choses. Nous plaçons notre confiance dans des gris-gris. Nous plaçons notre confiance dans ceci ou cela. Nous ne plaçons pas notre confiance en Christ. Et là, nous demeurons comme ces disciples-là qui avaient cru. Cherchez à ce que votre nom soit prononcé par Jésus-Christ. Deuxième chose dans cela, dans ce contexte du texte, la Bible a dit que c'est le matin que ses disciples et Marie étaient allés au sépulcre. Le soir de ce même jour, Jésus apparut aux disciples. La Bible dit qu'ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés. Ils ont fermé hermétiquement la porte par crainte des Juifs. Parce qu'ils savaient que comme notre maître est déjà pris, alors nous tous là, c'est fini pour nous. C'est la mort. Ils ont fui. Ils se sont enfermés dans une chambre. La peur a gagné leur camp. Bien-aimés dans le Seigneur, la fermeture de cette porte n'a pas empêché Jésus d'entrer. Quand Dieu décide d'entrer dans ta vie, rien et rien ne peut l'empêcher. Il a décidé d'entrer dans la chambre où étaient cachés ces gens-là. Il est arrivé et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, la première parole qu'il a prononcée devant les disciples, il a dit « La paix soit avec vous ». Shalom. Oui. Le mot shalom, c'est ce que Jésus a prononcé. Shalom, c'est la paix. C'est comme Jérusalem. Yerushalayim, Jérusalem, c'est la ville de la paix. Pourquoi Jésus prononce ça en premier? Parce qu'il savait qu'il y a des inquiétudes dans les cœurs de ses disciples. Il savait qu'il ne va pas. Ils se sont enfermés. Il a vu leurs besoins. Le besoin de ces gens qui sont ici, ça doit nécessairement être la paix. Avant toute chose, ça sera la paix. Quand Dieu décidera de nous amener la paix, personne ne l'arrêtera. Personne n'arrêtera Dieu quand il va décider de nous amener la paix. Rien n'a décidé, rien n'a arrêté Jésus d'amener la paix dans les cœurs de ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot shalom est une salutation hébraïque. Les Juifs utilisent cette salutation. Ça signifie aussi une bénédiction. Alors, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous dites shalom, on ne peut jamais dire shalom étant fâché. Je nous recommande que dans nos maisons, dans nos lieux de travail, que à l'église, partout où nous allons, quand nous arrivons chez nous à la maison, la première parole, qu'elle soit shalom. Quand vous entrez et vous dites à votre épouse, vos enfants à la maison, et vous dites shalom, personne ne va avoir peur. Vous savez, il y a des papas qui entrent dans la maison. Les gens ont peur. Les gens savent que, basse, commencer à dire shalom, ça va donner l'assurance à toute personne qu'il y a la paix. On ne peut jamais dire, si tu salues les gens, shalom. Tu ne peux pas dire shalom. Mais bonjour, tu peux le dire. Bonjour, tu peux le dire, mais tu arrives à ton lieu de travail, le travailleur, shalom, shalom. Même dans nos langues maternelles, là, Amahoro, il y a Obuholo, il y a Wabuholo. Ces noms-là, prononçons-les, que ce soit notre manière de nous saluer les uns les autres, que ce soit quelque chose qui va entrer en nous, afin que nous soyons réellement aussi des artisans de la paix. Alors la salutation de la paix est très appropriée pour ce que nous traversons même aujourd'hui. Tout le monde, nous avons besoin de la paix dans nos maisons. Nous avons besoin de la paix dans l'église. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de la paix dans toutes les différentes activités que nous faisons. Et comme je l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, adoptons cela comme salutation. Vous arrivez telle part, dites shalom. Ce qui veut dire que vous venez, vous ne venez pas avec une épée, vous ne venez pas avec une lance, mais vous venez avec la paix. Après la proclamation de la paix, au verset 21, Jésus envoie ses disciples. Mais nous pouvons toujours nous demander pourquoi il leur a proclamé la paix. Il sait, il y a un contexte qui a poussé Jésus à proclamer la paix. Parce qu'il savait que je vais vous envoyer au milieu de loups. Je vais vous envoyer là où on va vous égorger. Je vais vous envoyer dans un contexte difficile, mais il faut partir avec ma paix. Si vous partez avec ma paix, alors là, vous serez capable d'affronter toutes les situations que vous allez trouver. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus est né, même pendant toute sa vie sur terre. Et durant les moments où il a envoyé les disciples, Rome dominait le monde. L'Empire romain dominait le monde. Et le monde, à l'époque, c'était le monde méditerranéen. Les pays qui sont autour du bassin méditerranéen. Une partie de l'Europe, une partie de l'Afrique, une partie de l'Asie. Rome dominait toute cette partie-là. Et c'était ça le monde. C'était ça le monde. Même ce disciple à qui Jésus avait dit, en allant, faites de toutes les nations mes disciples. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Ce disciple avait effectivement réalisé cette mission. Ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que ça, c'était le monde à cette époque, le monde qui était connu. Et ils sont allés jusque-là. Ils ont prêché l'évangile. Comme ce Rome qui était le dominateur à cette époque, ils ont quand même travaillé pour la paix. La paix qui a permis que ceux qui veulent aller là puissent y aller, que ceux qui veulent faire ceci puissent le faire. Des voyages sûrs étaient faits. Les routes étaient là. Il y a en un moment donné une tolérance religieuse qui a été là. Ce n'était pas seulement des avantages à cette époque, mais en un moment donné, il y a eu aussi des désavantages. Est-ce que vous savez que il y a des gens qui profitent de la mauvaise situation que vous traversez? Je vais y revenir. À l'époque où Jésus est né et à l'époque où les disciples ont été envoyés jusqu'aux extrémités de la terre, l'Empire romain a eu aussi un grand problème, c'était les cultes de l'empereur, des idoles, et personne ne pouvait adorer un autre Dieu que les idoles des empereurs romains. On devait adorer les empereurs jusqu'à ce que même l'auteur du livre d'Apocalypse, il traite de l'Empire romain la grande prostituée, Babylone la grande. Si vous lisez l'Apocalypse, quand vous lisez le mot « la grande prostituée » ou « Babylone la grande », il faut savoir qu'il parle de l'Empire romain. L'empereur, il l'appelle la bête. Ici, c'est une figure de style qui permet à l'auteur de parler de quelqu'un à sa présence sans qu'il ne s'aperçoive. Il utilise des images, il parle de vous et vous ne saurez pas que c'est de vous dont il s'agit. Alors, c'était grave pour les chrétiens à cette époque. Les disciples ont eu des problèmes. Pourquoi Jésus devait toujours leur dire « la paix soit avec vous » ? Il y a même dans les évangiles que nous lisons, deux empereurs romains qui ont été mentionnés là-bas. Il y a Auguste qui a régné au moment où Jésus était né. Il y a Tibère qui a régné pendant le ministère de Jésus. Mais au même moment, les évangiles aussi parlent de procureurs qui sont aussi nommés. Il y a l'un qu'on appelle Quirinius et l'autre, peut-être nous le connaissons bien, il s'appelle Pilate. Pilate, c'était un homme légendaire. C'était un homme cruel, gouverneur de la Palestine entre les années 26 et 36 après Jésus-Christ. Mais au moins les Juifs ont eu le courage de dénoncer. Ils ont eu le courage de les dénoncer et selon l'histoire, il s'est suicidé, il s'est tué lui-même dans la salle des bains. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la position que tu occupes, si tu t'illustres dans une extrême cruauté, tu n'auras une mort honorable. Tu n'auras jamais une mort honorable lorsque tu t'illustres dans une extrême cruauté. Et nous les connaissons dans ce monde. Ces gens qui se sont illustrés, mais qui sont morts d'une manière déshonorable. Si tu veux être parmi ces gens-là, continue à être cruel. Tu vas mourir comme une mouche. On va même manquer ou t'enterrer alors que tu avais des concessions. Ce même contexte, c'est aussi peut-être le nôtre. Le contexte dans lequel Jésus nous envoie, nous qui sommes ses disciples, c'est au milieu de loups. Luc 10, 1 à 4 dit, et même mes brebis, il nous envoie. Il avait dit aux disciples, à Luc 10, 1 à 4, partez, mes brebis. Partez seulement avec ma paix. Si quelqu'un t'envoie et il dit, tu pars seulement avec ma paix, c'est possible que tu vas douter que tu ne peux pas partir. Parce que tu ne peux pas avoir la confiance à cette paix, à cette parole. Maintenant là, je peux te dire, bon, nous avons évangélisation à Kichang, à Kiwanch, à Kishish. Nous demandons aux évangélistes, apprêtez-vous, nous allons à Kishish pour l'évangélisation. Partez avec ma paix. Je sais qu'il y a plusieurs qui vont démissionner. On peut démissionner. Vous savez le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis que la RDC est RDC, depuis que ces pays, nous assistons à l'instabilité politique. Nous avons des guerres tribales. Nous avons assisté à des guerres que nous appelons guerres de libération. Nous assistons à des guerres d'agression et d'occupation des terres. Nous assistons à des tueries et de massacres ciblés. À part ça, nous assistons à des catastrophes naturelles, dont l'éruption volcanique à plusieurs répétitions. À part ça, dernièrement, nous avons été victimes de la maladie à virus Ebola. Nous avons été victimes de la maladie à virus, à coronavirus. Nous sommes aussi victimes de la maladie à virus du tribalisme. Ce virus-là aussi est en train de ronger les gens là-bas. Il y a le pasteur Daniel qui disait ici hier que il suffit qu'une personne d'une telle tribu te fasse du mal, directement tu dis, ces gens-là sont toujours mauvais. Alors que c'est une seule personne. Et tout ce contexte dans lequel nous sommes provoque des crises économiques, des maladies liées à des tensions artérielles. Nous voyons des morts subites que nous attribuons aussi à des démons et à des sorciers. Peut-être que ce sont des morts qui nous viennent parce que nous vivons des moments qui nous sont difficiles. Nous ne savons pas les supporter. Ces moments nous amènent des crises relationnelles. Les gens qui ont vécu les années 80, les années-là, on vivait ça problème ici avec tout le monde. On ne savait même pas que celui-ci c'est de telle tribu, de telle autre tribu. Mais maintenant, là, vous vivez des crises relationnelles. Les gens disent, ça ou yuna e ni wawapi. C'est devenu un problème. Je me demande souvent, pourquoi c'est chez nous où il y a des tribus? En Europe, il n'y en a pas aussi. En Europe, on donne seulement le pays. Celui-ci, c'est un Français. Celui-ci, c'est un Allemand. Celui-ci, c'est un Italien. Il n'y a pas de tribu là-bas. Pourquoi quand il y a eu aussi des tueries qui se font, on dit, bon, il faut qu'on mette beaucoup d'accent. Ce sont les gens de la tribu telle qui ont fait ça. Tout ça, ce sont des stratégies qu'on utilise pour toujours nous amener à la division. Il y a aussi des tribus là-bas, mais ces gens-là, ils ne le disent pas. Je vous conseille aujourd'hui d'accepter d'être seulement Congolais. Dites seulement que je suis Congolais. C'est ça. Refusons ce que les autres nous amènent. Toi, tu es d'où? Toi, tu es d'où? Toi, tu es d'où? Non, non. Je suis Congolais d'origine céleste. Parce que c'est Dieu qui m'a créé. Pendant ces moments ici, que nous sommes en train de traverser, Jésus nous envoie dans ces contextes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont la conscience ou n'ont pas la conscience? Ils profitent de cette situation pour venir s'enrichir en RDC. Ce ne sont pas eux peut-être qui sont les auteurs, mais la situation leur permet de s'enrichir. Il peut y avoir des étrangers, il peut y avoir aussi des nationaux. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui en RDC, à Goma, parce que nous vivons cette situation. Toi, tu es pauvre parce que nous vivons cette situation. Mais il y a ceux qui sont riches. Et peut-être quand il y aura la paix totale, ces affaires ne vont plus marcher. Ce n'est pas parce qu'il veut que ça soit ainsi, mais le système qui est maintenant lui permet d'être bénéficiaire et il devient millionnaire. Nous sommes à Goma, dans la guerre, mais les Libanais viennent avec des supermarchés. Nous nous disons que nous sommes à guerre et ils voient que c'est une opportunité. Pourquoi nous aussi on ne peut pas profiter de cette opportunité-là et ouvrir aussi les nôtres. Dans cette situation-là, Jésus nous envoie. Il nous envoie. Il nous envoie. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Partez avec ma paix. Partez avec ma paix. Le confort dans lequel nous sommes, Jésus veut que nous puissions sortir de là. Il nous fait sortir de ce confort-là pour aller vers ceux qui ont besoin de... En servant ces gens-là, ils vont expérimenter aussi la shalom que nous avons déjà en Jésus-Christ. Si tu es chrétien, tu es disciple de Christ, tu as aussi cette shalom-là que Dieu souhaite dans ta vie. La Bible a dit, Jésus, il leur a dit, je vous donne mon esprit. Jésus souffla sur eux l'esprit qui va leur permettre d'aller malgré les difficultés et les situations difficiles. C'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables de changer la vie des gens chez qui Dieu nous envoie. Depuis que tu as cru, tu as un don qui t'a été offert par Dieu. Mais tu dois savoir que ces dons-là, par Dieu, tu dois l'utiliser pour parachever l'œuvre de Christ. Celui qui avait dit, vous ferez beaucoup plus d'œuvres que celles que je n'ai fait sur la terre. Jésus n'est pas arrivé à Goma quand il était sur la terre. Mais il y a eu des gens qui l'ont envoyé et qui ont accepté de venir à Goma. Alors toi, tu as cru, tu as eu la paix en Christ. Maintenant là, aujourd'hui, il te dit aussi de partir. Va annoncer la bonne nouvelle du salut au monde. Mais lorsque nous annonçons la bonne nouvelle du salut au monde, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est lequel? C'est aller physiquement. Aller physiquement, être mordu par des serpents, être flagellés par des bandits, des brigands que vous allez rencontrer, ce sont des prix à payer. On vous fouette et vous dites que la gloire revienne à l'Éternel. Parce qu'on vous fouette au nom de l'Éternel. Le deuxième prix à payer, priez pour l'annonce de l'Évangile. Quand vous priez pour l'annonce de l'Évangile, vous jeûnez. Vous vous privez de la nourriture. C'est un prix que vous êtes en train de payer afin que celui qui est parti soit capable de prêcher l'Évangile puissant. Un autre prix à payer, vous vous privez de la satisfaction de certains besoins, ne fût-ce que pour plaire à Dieu. Notre vie, c'est une évangélisation. Ne fût-ce que pour plaire à Dieu, tu te prives. Pendant que les autres trouvent leur douceur dans les jambes des femmes, toi, tu dis, pour la raison de la gloire de Dieu, je ne veux pas cette sorte de douceur. Pendant que les autres trouvent leurs affaires dans le vol, dans la corruption, mais toi tu dis, pour l'honneur et la gloire et l'évangélisation dont je suis porteur, je ne ferai pas ceci. Parce que tu sais que ta vie, c'est une véritable évangélisation. Tu te prives. Les autres deviennent millionnaires. On te propose même, Uko Yuma, et soyez vrais Yuma en Christ. Au nom de la gloire de Dieu, tu auras évangélisé. Quelqu'un te propose, tu refuses, au nom de Christ, tu l'auras évangélisé. Et le Saint-Esprit, qui est notre enseignant par excellence, va continuer à le travailler. Partout où nous sommes, là où nous travaillons, il faut savoir que nous portons le message de l'évangélisation. Un autre prix à payer, se faire intervenir ce bien matériel et financier. Tu peux ne pas partir, mais tu vas partir à travers tes biens matériels, à travers tes biens financiers. Comme par exemple, aujourd'hui, nous avons, nos mamans vont à la prison. Elles ont de la nourriture ici, mais elles n'ont pas de véhicule pour apporter la nourriture à la prison. Quand tu vas donner ton véhicule, sortir d'ici jusqu'à la prison, tu viens de te priver. C'est un prix que tu viens de payer. À ce moment-là, peut-être tu pouvais faire autre chose avec ton véhicule, mais tu les donnes pour ce travail-là. Un prix à payer. Je vais mettre un peu d'accent sur cette question des biens matériels et financiers. Nous ne partirons pas tous pour prêcher l'Évangile. Des côtés, nous ne partirons pas tous. De notre côté, nous partirons tous. Nous partirons tous lorsque il y a ceux qui sont partis et toi tu les pousses par tes biens. Tu les pousses par tes prières, par tes conseils, par ce que tu as. Par les offrandes, par les aumônes, les prémices, les dîmes que nous avons. Toutes sortes d'offrandes sont différents. Les offrandes, c'est un don que nous donnons à Dieu. Malheureusement que nous avons déjà pensé que c'est ce dont Dieu a besoin le premier dans les cultes. Mais ce n'est pas ça. Les offrandes, c'est lorsque tu dis, il y a une certaine œuvre que nous allons faire pour Dieu, tu donnes là-bas. Il a fait quelque chose dans ta vie, tu donnes. Tu dis merci à Dieu pour ça. Les aumônes, c'est ce que nous donnons aux nécessiteux. Celui qu'on appelle aumônier, c'est une personne qui est mise quelque part s'occuper des gens gratuitement. Il les aide, les aumônes. Si tu amènes tes aumônes ici, il n'y a pas de nécessité ici, par exemple, ici au culte. Si on met un panier là, si, quand tu amènes ça, ça entre dans le cadre des offrandes. Ce que nous donnons là, partout là, ce sont les aumônes. Alors ces aumônes là, nous devons les donner. Et ça va contribuer aussi à l'évangélisation là-bas. Bon, il y a un Français qui dit que ça, on les appelle des aumônières. Il ne faut pas chaque fois les appeler aumônières ici au culte. Parce que vous ne donnez pas votre offrande ici parce qu'il y a des nécessités ici. On les appelle des paniers des offrandes. Ça suffit comme ça. L'offrande, ou ce qu'on peut dire, comme ce que Dieu veut, et qui est un droit inaliénable de Dieu, c'est ça, ce qu'on appelle les dîmes. La Bible dit, en Malachie chapitre 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de la nourriture dans cette maison-là. » Ça, vous n'avez pas besoin qu'on vous communique. Pour les dîmes, on n'a pas besoin qu'on communique. Parce que ça, c'est une partie de Dieu. Il t'a béni. La première chose, cette bénédiction divisée par 10. Pendant l'année, tu fais l'inventaire. Tu fais l'inventaire de tes biens. Tu as gagné, je ne sais pas, 300 000 ou tu as gagné 500 000. Divisé par 10, 500 000 divisé par 10, c'est 50 000. 100 000 divisé par 10, c'est 10 000. 100 divisé par 10, c'est 10. 10 divisé par 10, c'est 1. Il n'y a pas beaucoup de philosophie là-bas. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Ça, c'est, et c'est ça l'offrande dont Dieu a besoin dans sa maison, ici. Malheureusement, bon, je ne sais pas comment ça avait commencé. Depuis longtemps que la CBG a commencé ou les églises, on a renversé la tendance. Nous avons cru que les offrandes que nous donnons ici, nous allons directement donner les offrandes ordinaires, je ne sais pas quoi là-bas. Nous pensons que c'est ça les offrandes, c'est ça ce qui est plus spécial. Mais ce qui est plus spécial dans la maison de Dieu, c'est ça les dîmes. Chaque fois que tu t'élèves, je viens à la maison de Dieu. Est-ce que j'ai les dîmes que je dois amener à la maison de Dieu? Et pourquoi les dîmes? Parce que les dîmes sont consacrées à l'Éternel. Les dîmes sont consacrées à l'Éternel. Si vous lisez Lévitique 27, le verset 30 et 32, les dîmes sont consacrées à l'Éternel. Permettez que j'utilise ce verbe. Si nous mangeons les dîmes, nous volons Dieu. Parce que les dîmes sont consacrées à l'Éternel. Dans l'histoire, en Nombre 18-30, les dîmes arrivaient à l'Éternel parce que l'Éternel n'a pas de bouche ici. Quand ça arrive, les dîmes sont consacrées aux Lévites. Les Lévites et les sacrificateurs, ceux qui travaillent dans les temples. Au fil du temps, à Deutéronome 26, 12, les dîmes sont consacrés aux représentants de cet Éternel-là. Et ils sont à quatre catégories. La première catégorie, ce sont les Lévites. La deuxième catégorie, c'est l'étranger qui habite dans votre pays. La troisième catégorie, c'est l'orphelin. Et la quatrième catégorie, c'est la veuve. Il y a combien de veuves, des orphelins et nécessiteux dans ta famille? Est-ce que tu leur apportes la dîme? Ici, il y a aussi la question des pasteurs. Ceux qui reçoivent la dîme. La Bible dit en Nombre 18, 26, « Quand le Lévite recevra la dîme, il donnera aussi la dîme des dîmes. C'est à Nombre 18-26. Je ne sais pas si nous les pasteurs aussi nous donnons ça. La dîme des dîmes. Il ne faut pas chaque fois aussi dire aux gens, donnez, donnez, donnez. Et nous, on ne donne pas. Non, la Bible dit, donnez la dîme des dîmes. Si je donne la dîme des dîmes, il y a celui qui travaille dans la tente d'assignation. C'est ce pasteur qui avait tracé la voie. En fonction maintenant, celui à qui je vais donner aussi la dîme des dîmes. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent dans notre vie à cause de la pauvreté. Ces gens-là que vous voyez souvent à la télévision, il y a des télévisions ici, des églises, quand ils prient, les gens tombent. Ces gens-là, ils sont pauvres. Ils n'ont pas de démons. C'est la pauvreté. Vous pouvez me dire combien de riches avez-vous déjà vu tomber là-bas? Dans ces églises-là, il y a des riches. Mais ces riches, vous ne les verrez jamais tomber. Donc cette manière de faire tomber, on fait tomber seulement ceux qui sont pauvres. Et ils sont arrivés là pourquoi? Parce que peut-être ils n'ont pas été bénéficiaires. Dîmes, vous qui êtes dans leur famille, vous qui êtes dans leurs églises, vous qui êtes partout là. Un jour, quand vous les verrez encore tomber, posez-vous la question, est-ce que ce n'est pas à cause de moi que celui-là vient de tomber? Parce que je n'ai pas donné ma dîme. Et la dîme, nous devons être fidèles à cette dîme-là. Si nous donnons la dîme et les offrandes qu'on peut vous demander de temps en temps, et ici, dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de nourriture, l'Église sera aussi capable d'envoyer les gens pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on annonce la bonne nouvelle et les dîmes sont là, accompagnés maintenant de la paix de Christ, et les choses vont de soi. Tout comme Jésus a envoyé ses disciples, il nous fait, nous aussi, comme je l'ai dit avant, sortir du confort dans lequel nous sommes. Il y a ceux qui ont besoin de nous, aux alentours de nous. Il y a ceux qui ont besoin de nous. Ils sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir, voici quatre choses avec lesquelles partir. Je recommence au début. La première chose, mettez-vous au service de Dieu avec fidélité. Il prononcera votre nom et vous favorisera au milieu de plusieurs. Deuxième chose, apprenez à mouvoir de la dimension de la croyance vers la dimension de la foi. C'est-à-dire avoir confiance et la dépendance totale à Dieu. Troisième chose, sois un artisan de la paix au milieu de ton peuple, ton foyer, ta famille, ton église, ton pays. Quatrième chose, sers fidèlement Christ par tes finances et l'évangile sera annoncé pour le salut de plusieurs. Que Dieu nous bénisse. Amen.